Bienvenue sur la chaîne Ambiance Architecture Urbanité, AAU.
La troisième session du séminaire s'intéresse aux reconfigurations sensibles de la mémoire. Elle est ici présentée par Amélie Nicolas, suivie par l'intervention de Thomas Zanetti sur le patrimoine urbain et les luttes sociales à la Guillotière à Lyon.
Donc on attaque la troisième session que nous avons intitulée « Droit à la ville », expression bien connue, bien entendue, « Les reconfigurations sensibles de la mémoire ». Alors je vais me permettre une toute petite anecdote nantaise micro-située avant de vous d'entrée de jeu, parce qu'elle a... Elle a agi avec Céline, Noah et Georges quand nous avons pensé à ces journées-là. Et voilà, pour les Nantais, ça parlera peut-être, sans doute pas, sauf à quelques personnes qui m'ont déjà entendu sur cette histoire. En tout cas, la toute petite histoire, c'est que nous avons une statue qui est située à l'arrière du Palais de la Bourse. Vous voyez la place du Commerce. Il y a un arrière de cette place du Commerce et une statue d'un personnage que vous connaissez peut-être, fervent partisan de l'action française, Villebois-Mareuil, qui est un militaire né à Nantes et mort en 1900 à Boshof dans la Seconde Guerre des Boers en Afrique du Sud. Je pense que peut-être vous connaissez ce personnage, pas vraiment. Moi, je ne le connaissais pas avant d'avoir entendu l'histoire de cette statue. En tout cas, on est au début du XXe siècle, dans une période très anglophobe en France. Et la statue de Villebois-Mareuil, mort dans cette Seconde Guerre des Boers, est érigée à l'initiative des élites locales nantaises, dont le frère de Villebois-Mareuil, peu importe, en 1902. Et on est vraiment dans une statuaire publique de cette époque, très massive, sur socle, etc. Et alors, aujourd'hui, la statue, elle ne pose pas vraiment de problème parce qu'elle est peu mise en valeur, cette arrière du Palais de la Bourse étant une sorte de place peu traversée, peu lisible dans l'espace urbain. Cependant, nous avons un grand projet urbain contemporain, dit de la gare à la Loire, que vous avez peut-être emprunté. Et on est dans une phase de mise en valeur de cette un peu dernière, de dernier périmètre de l'arrivée enfin sur la Loire. La question est celle du retournement de l'arrière de ce palais de la Bourse, désormais en avant, puisqu'il va annoncer la Loire arrivante. Donc on a ce grand projet urbain qui va prendre place, sauf que cette façade arrière devenant désormais un avant, la statue de Villebois-Mareuil se retrouve désormais en plein centre de la place et pose la question de la mémoire de ce personnage et de ce que l'on va en faire une fois qu'il sera à découvert. Donc c'est une vraie question parce que ne pas intervenir et faire le projet, c'est de fait valoriser la mémoire de Villebois-Mareuil. Intervenir, c'est potentiellement réveiller des résistances. Les nouveaux défenseurs de Villebois-Mareuil pourraient se réveiller. C'est afficher une historiographie partisane, plus de Villebois-Mareuil chez nous si on la démolit, et la déplacer. Option, c'est considérer que d'autres espaces publics pourraient accueillir cette mémoire, mériteraient la mémoire de Villebois-Mareuil. En tout cas, c'est classifier les espaces publics. Bref, c'est une histoire très sensible. Donc, je ne rentre pas dans toute l'actualité contemporaine des statues, mais je voulais commencer par une histoire sensible. Donc, pour cette session, vous voyez, on a réfléchi au fait que, on le sait, les projets architecturaux et urbains engagent un regard sur la mémoire associée au parti pris historiographique qui accompagne les transformations de la ville. Donc, la question des jeux d'acteurs, des controverses, négociations mémorielles dans la fabrique urbaine renseigne, si on les regarde de près, de très près, sur les choix formels que l'on parcourt dans la ville. Donc, on serait là presque dans l'observation de ce qui précède l'élection patrimoniale, qui pourrait être là le récit historiographique finalisé. Donc ainsi, démolir, reconstruire, valoriser touche au caractère sensible et situé de la mémoire et participe à faire entrer, on a utilisé cette notion ce matin, les affects en politique. Donc là, on a des cas des luttes politiques et sociales contre l'oubli ou un certain monopole historique ou patrimonial qui ont pu surgir, obligeant à poser la question de la négociation mémorielle au cœur des projets d'aménagement. Et puis d'un autre côté, on en a aussi un peu parlé ce matin, la standardisation ou l'aseptisation des espaces publics urbains associés à des politiques symboliques pose la question plus sourde, celle-ci, je pense, du désamorçage, voire de l'effacement de possibles conflits mémoriels en anticipant sur la chose. Et puis, encore une fois, elle pose, toutes ces questions posent l'enjeu de la reconnaissance des mémoires les moins représentées matériellement et donc les plus vulnérables. Donc, ce troisième temps qui essaye d'agglomérer, de penser cette question, ces reconfigurations sensibles de la mémoire, va nous permettre d'explorer, documenter les enjeux, formes et expressions de ces mémoires au moment des transformations urbaines, en regardant comment elles peuvent être un prisme pour interroger les conditions d'existence matérielle, peut-être des cultures populaires dans la ville contemporaine également. Alors, pour cette session, nous invitons Thomas Zanetti, qui est donc maître de conférence en aménagement urbanisme à l'Université Lyon 3. Pas de nouveau nom là-bas ? Non. OK. Jean Moulin. Et tu es membre du laboratoire Environnement Ville Société. Et tes travaux portent, alors nous sommes connus il y a bien longtemps, sur les questions politiques, mémorielles, symboliques, dans le cadre d'aménagement urbain. Ta thèse à l'époque, mais tes travaux ont évolué, tu vas nous dire ça, portait sur Clermont-Ferrand et Michelin.
Bon, déjà, merci au laboratoire AU pour l'invitation, puis un merci plus particulier à Amélie pour m'avoir invité. Donc, alors moi, je ne mobilise pas la notion d'ambiance. J'ai compris que ce n'était pas très grave, sinon je ne serais peut-être pas là, hein, de toute façon. Donc, je rentre par la thématique patrimoniale et mémorielle. Donc, voilà, c'est aussi, il y a 15 ans, on s'est rencontrés sur cette thématique-là avec Amélie. On a pu travailler ensemble, donc c'est vraiment l'entrée principale. Donc, c'est un peu un fil rouge de mes recherches, même si ce n'est pas forcément l'objet central. Donc, je ne mobilise pas la notion d'ambiance, mais je vais quand même vous parler d'un quartier qui ne manque pas d'ambiance. C'est le quartier de la Guillotière à Lyon, si certains connaissent. Et donc voilà, la thématique patrimoniale, elle s'est imposée depuis plusieurs décennies comme une entrée privilégiée de l'étude de la dimension spatiale des rapports sociaux. Donc c'est plutôt une entrée géosociale, études urbaines, avec souvent une patrimonialisation qui est interprétée comme une construction sociale et politique conflictuelle. Et le patrimoine, c'est un peu ce que disait Amélie, soit comme un instrument de domination et d'exclusion, soit au contraire comme un outil de résistance. Et donc, à quelques exceptions près, moi, je vous parlais d'un quartier en transformation, on va dire en gentrification, pour le dire rapidement. L'idée que la valorisation du patrimoine favorise cette gentrification, que ce soit des centres anciens, des faubourgs ou des espaces anciennement industriels, domine dans la littérature par quelques travaux, je pense à ceux d'Ovig Terminassian, mais souvent, voilà, on associe patrimonialisation et gentrification. Et donc moi, je propose dans cette intervention d'analyser le patrimoine comme un outil stratégique des luttes habitantes, de luttes habitantes contre les évolutions socio-spatiales d'un quartier. Donc c'est une question assez classique finalement, comment les héritages y sont mobilisés pour résister aux changements urbains. Et puis, question plus peut-être un peu moins classique, c'est vu qu'il y a un rôle assez important du mouvement libertaire dans ces luttes, je m'interroge sur finalement un éventuel renouvellement du sens donné au patrimoine et est-ce qu'on peut finalement définir à partir de ces mouvements et de leur rôle et de leur mobilisation dans le patrimoine une approche libertaire ou anarchiste du patrimoine. Donc je vais vous parler de luttes menées par différents collectifs d'habitants depuis près de 30 ans dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Alors on a parlé ce matin un peu de neutralité pour certains dans des contextes difficiles ou d'objectivité. Je précise que je suis membre de ces collectifs et qu'en fait ma trajectoire c'est plutôt d'abord d'habitant de la Guillotière puis de militant dans ces collectifs. Et aujourd'hui j'essaye justement de passer de retrouver un peu ma fonction de chercheur, voilà, ce qui pose beaucoup de questions méthodologiques et de positionnement. Donc ces luttes, elles se saisissent du patrimoine dans le cadre d'une opposition au changement social et urbain du quartier. Alors au départ, c'est un argument un peu parmi d'autres de la critique habitante, mais par la suite, le patrimoine va faire l'objet d'une appropriation par son occupation qui permet à la fois un ancrage spatial des luttes et le déploiement d'alternatives sociales. Donc je vais d'abord présenter assez rapidement ces luttes qui s'opposent aux transformations du quartier dans les dernières décennies, la manière ensuite dont le patrimoine est mobilisé par ces collectifs habitants, et puis j'essaierai justement un peu de dégager les caractéristiques de ce que pourrait être une approche libertaire du patrimoine à partir justement de cette appropriation dans le cadre des luttes urbaines. Alors j'entre pas dans les détails, hein, je n'ai pas le temps, mais la Guillotière à Lyon, c'est un peu le quartier traditionnel de l'immigration. C'est le quartier historique d'entrée, d'arrivée des immigrés à Lyon. On appelle notamment la place du pont, qui est un espace central de la Guillotière, parce qu'il y a le pont qui mène à la presqu'île. Et donc, c'est un quartier. Alors, la carte, voilà, vous voyez, hein, je ne suis pas géographe, mais j'ai quand même fait des cartes. Et là, il y a une bulle, une patate, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de limite au quartier de la Guillotière. C'est des limites très, pour le coup, entre limites sensibles, administratives, etc. Il n'y a pas de limite très officielle. La Guillotière a été, à une époque, une commune indépendante qui avait toute la rive gauche du Rhône, donc il y a des évolutions. Donc, en tout cas, c'est le quartier où, finalement, c'est un espace ressource pour les plus précaires, parce que c'est là où ils viennent trouver, justement, des ressources pour s'intégrer ou tout simplement pour survivre. Et donc, depuis près de 50 ans, mais en fait, on pourrait dire depuis 250 ans, les pouvoirs publics cherche à normaliser ce quartier qui se situe, comme vous le voyez, dans l'hypercentre de la ville, entre l'hypercentre de la ville, Bellecour, et son centre d'affaires, La Part-Dieu. Donc c'est entre les deux, et le but, c'est de finalement, par des opérations d'aménagement et des politiques urbaines, de transformer ce quartier un peu pas comme les autres en un quartier attractif pour les classes moyennes et supérieures, les investisseurs immobiliers, les touristes, etc. Et donc l'action publique de rénovation urbaine à la Guillotière, elle va rencontrer des oppositions dès le milieu des années 70, et même avant d'ailleurs, quand on retrouve dans les archives, on a mention de luttes plus anciennes. Mais donc au début des années 90, plusieurs collectifs luttent contre la construction de ce bâtiment que vous voyez sur l'image de gauche, qui est le CLIP. Alors c'est un bâtiment qui devait être un bâtiment luxueux, hein, c'était... Bon, ça ne se voit pas, hein, et en vrai, ce n'est pas du tout le cas. Mais ça devait être un grand programme luxueux. Aujourd'hui, il y a des filets pour pas que les vitres tombent, donc ce n'est plus du tout luxueux. Mais voilà, c'était un projet qui vraiment devait moderniser ce quartier. Et bon, il sera réalisé, hein, malgré l'opposition. Mais par contre, l'opposition, elle va servir à éviter la destruction de tout le quartier qui est derrière. Donc il va y avoir 200 logements, hein, qui devaient être détruits. C'est le quartier à forte appropriation de la communauté maghrébine. Et donc, il devait y avoir une percée qui devait détruire ce quartier. Donc ça sera abandonné suite à une mobilisation d'un comité d'habitants et de commerçants. Toujours dans ce quartier, là, on ne le voit pas sur l'image, mais derrière ce bâtiment, il y a eu une nouvelle mobilisation pour sauver 4 immeubles et 40 logements. C'était en fait contre la nouvelle percée urbaine, plus légère, mais il y avait une nouvelle percée qui devait se faire. Donc il y a une nouvelle mobilisation pour ça. Donc ça, c'est un premier sous-quartier de la Guillotière, en fait, qui s'appelle le quartier Moncé. Et dans un autre sous-quartier, qu'on pourrait nommer le quartier Mazagran, au début des années 2010, la création d'une place publique, que vous voyez en projet, en image de projet, sur l'image la plus à ma droite, va rencontrer, là aussi, une importante contestation de la part de collectifs d'habitants et d'associations, notamment à la... sur la base d'une appropriation habitante autour d'un jardin partagé. Donc la place, elle sera quand même réalisée après un conflit de plusieurs années. Et plus récemment, depuis 2018, deux collectifs se sont créés pour s'opposer, cette fois, à l'aménagement d'un îlot qui est situé juste à côté de cette place. Donc c'est l'îlot dit Mazagran. Donc c'est cet îlot qu'on voit en vue aérienne. Donc c'est un projet qui prévoyait la construction de 120 logements, la disparition d'une vingtaine de logements, mais aussi d'un garage automobile, d'un carrossier, d'un atelier d'autoréparation de vélos. Donc cette version initiale, elle a été abandonnée suite à la mobilisation, et elle est aujourd'hui en fin de rediscussion avec des habitants, des associations et des collectifs du quartier. Et donc dans cette opposition au projet d'aménagement, à ces projets d'aménagement et de rénovation urbaine, tous les collectifs se sont saisis à divers degrés de la thématique patrimoniale et mémorielle. Dans un quartier donc, qui est marqué par l'immigration, ce recours au patrimoine et à la mémoire, il peut d'abord permettre finalement d'entretenir des liens entre les collectifs mobilisés qui sont classiquement composé de blancs éduqués avec des forts capitaux culturels et sociaux, si ce n'est économiques, mais des jeunes, notamment avec des professions des architectes dont je reparlerai. Et donc dans un quartier comme ça, effectivement, la thématique patrimoniale peut permettre de rapprocher ces collectifs des classes populaires et des personnes issues de l'immigration. Donc j'ai cité un comité d'habitants et de commerçants qui, dès les années 80, a intégré ces catégories populaires, notamment à partir de la question des commerces, notamment, et des commerces maghrébins, en leur faisant découvrir, finalement, par des balades urbaines, une exposition, l'histoire d'un quartier à laquelle ils ont largement contribué. Les groupes d'habitants qui sont opposés à l'aménagement de la place publique aussi ont été à l'origine, par exemple, de la création d'une fresque murale qui est aujourd'hui disparue, signée par un street artiste très connu qui s'appelle Eduardo Cobra. Et donc une fresque qui, justement, aborde directement cette question de l'immigration à la Guillotière. Et puis plus récemment, un des deux collectifs sur Mazagran qui s'appelle « La Guillotière n'est pas à vendre » a traduit ses affiches en plusieurs langues pour là aussi toucher finalement les propriétaires des commerces dits ethniques qui étaient menacés par la hausse des loyers et la montée en gamme du tissu commercial. Donc ça, c'est le premier aspect, la première, on va dire, usage stratégique de la mémoire. Le deuxième, c'est que finalement, l'évocation de la mémoire du patrimoine chez les personnes mobilisées, elle va traduire un attachement individuel au quartier, attachement qui passe notamment par l'identification et la valorisation d'un héritage matériel et immatériel qui s'incarne dans des lieux qui sont porteurs d'une, j'avais noté, atmosphère, d'une ambiance sociale spécifique. Là, c'est finalement tout un travail qui a été mené notamment par des architectes qui associe la morphologie urbaine et le tissu urbain de la Guillotière, qui est assez particulier et qui n'est pas quadrillé comme dans d'autres parties à Lyon, à une morphologie sociale et à des relations sociales particulières. Alors on peut être critique avec ça, parce qu'on en ressort la notion un peu de quartier-village, un peu mythifié, etc. Mais en tout cas, c'est un argumentaire. La reconnaissance d'un patrimoine, elle est aussi un facteur important d'engagement individuel et de mobilisation collective. Celles-ci, elles ont pour conséquence de renforcer finalement le sentiment d'appartenance à l'espace, de réactiver des mémoires locales. Et donc, attachement et engagement passent fréquemment par une défense de l'identité des lieux et de leur qualité patrimoniale. Donc là, je cite par exemple ce comité d'habitants et de commerçants qui dit avoir ravivé une conscience patrimoniale pour redorer le blason d'un quartier longtemps stigmatisé et disqualifié et valoriser son identité unique, résistante, populaire, métissée. Donc ça passe à la fois par des pratiques, des usages qui sont réactivés, qui sont mis en valeur, des usages quotidiens, mais aussi par la présence de personnalités. Donc par exemple, Jean Moulin a résidé dans le quartier pendant la Résistance. C'est aujourd'hui un Ninkasi, donc c'est une chaîne de bière classique, mais avant c'était le bar où le café où se retrouvaient les résistants. Bakounine a aussi été caché dans le quartier quand il préparait la nouvelle commune à Lyon. Donc voilà, il y a des grandes histoires comme ça, puis il y a les petites histoires des usages quotidiens. Donc l'invocation d'un patrimoine à protéger, à défendre face à des intrusions extérieures, ici celle des promoteurs immobiliers et de la puissance publique, notamment de la métropole, constitue un vecteur d'adhésion à une lutte urbaine, en suscitant à la fois des sentiments d'attachement au lieu et de réprobation envers les projets d'aménagement qui entraîneraient leur perte et leur dépossession. Et donc au discours dévalorisant, là j'ai pas de citation, mais on a des élus qui disent qu'il faut hygiéniser le quartier, des institutions donc, sur le quartier, les collectifs opposent un récit qui présente la Guillotière comme, je cite, un quartier ouvrier d'immigration qui a toujours été un lieu de rencontre, des cafés pas chers, des produits du pays, un espace pour se retrouver, discuter, faire ses courses, s'amuser et habiter. Et ce quartier, donc, il doit être défendu pour qu'il reste populaire et solidaire. Donc le registre patrimonial, au départ, notamment quand il est mobilisé par des architectes, il est surtout invoqué pour protester contre une transformation physique, notamment contre la densification. Mais après, cette protestation contre la transformation physique permet de dire « oui, mais dans cette coquille physique, il se passe des choses sociales ». Et puis d'un autre côté, il y a vraiment une critique sociale et politique d'autres collectifs qui s'opposent clairement à la gentrification. Les mobilisations, elles ont ensuite permis donc d'éviter de nombreuses destructions et d'obtenir des relogements sur place pour les personnes qui ont vu leur logement détruit. Elles sont aussi à l'origine de la création d'un centre social qui propose à la population un pôle d'accès aux droits, d'activités culturelles. Donc le recours à la thématique patrimoniale, c'est pas fait au détriment de préoccupations sociales, c'est quelque chose qu'on voit pas forcément partout. Et les collectifs ont réussi, là aussi je cite, à valoriser le patrimoine visible et invisible sans tomber dans l'instrumentalisation touristique et la gentrification. Donc, le collectif, par exemple, qui est parvenu à empêcher la destruction des 4 immeubles, a justifié finalement leur maintien et leur rénovation en logements sociaux par leur qualité architecturale et par la nécessité de préserver un front bâti. Mais ces arguments patrimoniaux ne sont finalement que des arguments. Ce n'est pas l'objet central. Ils sont conçus surtout pour empêcher les destructions et les opérations de rénovation urbaine et aujourd'hui pour obtenir en fait la réhabilitation de ces bâtiments et maintenir les classes populaires dans le quartier puisque ces bâtiments seront réhabilités en logements sociaux. Donc en fait, on est dans un quartier où c'est le facteur premier de la gentrification. Ce n'est pas la valorisation de l'existence, c'est sa destruction. Les processus de patrimonisation, ils renvoient ensuite à la question de l'appropriation sociale de l'espace, à la Guillotière et notamment sur l'îlot Mazagran. Cette appropriation, elle s'effectue principalement de manière autogérée à travers une mise en valeur symbolique du patrimoine bâti et un marquage de l'espace, donc des tags, des pochoirs, du street art, des banderoles, comme vous voyez ici, qui constituent des supports d'expression, des revendications, des collectifs qui défendent donc cette identité populaire et solidaire du quartier et appellent à une résistance habitante. Le déploiement de banderoles qui portent les mentions, donc là, c'est celle que j'ai mis, hein, contre la démolition, défendons un îlot vivant et solidaire, ou vivre, lutter, créer, habiter, bienvenue à l'ECG, donc j'en parlerai après. Donc sur deux bâtiments de l'îlot, c'est une manière d'inscrire clairement un message politique dans la matérialité des héritages. L'organisation d'événements festifs, alors j'ai pas, c'est vrai que j'aurais pu mettre aussi des images ou des sons, hein, donc des repas, des apéritifs partagés, des déambulations de fanfares, etc., sur et autour de l'îlot, contribuent également à cette appropriation à la fois physique et symbolique. Donc cette volonté d'appropriation autonome de l'espace qui est portée par les collectifs, elle renvoie pour moi à ce qu'on a pu appeler à Kimbe les zones d'autonomie temporaire ou à ce qu'on appelle aussi les géographies autonomes. Les géographies autonomes, c'est Pickerill et Chatterton, donc ils les définissent comme, je cite, « des espaces où les populations désirent constituer des formes de vie non capitalistes, égalitaires et solidaires d'organisations politiques, sociales et économiques, par une combinaison de résistance et de création ». Donc, ils prennent notamment l'exemple de centres sociaux autogérés au Royaume-Uni pour montrer comment les pratiques et les processus et les pensées de l'autonomie se mettent en œuvre et que c'est des pratiques finalement, qui sont repérables dans de nombreux contextes temporels et spatiaux. Au-delà donc, d'une dimension symbolique, qui passe notamment par le marquage de l'espace, cette volonté elle se traduit par une appropriation matérielle du patrimoine, qui constitue également une manière de lutter contre la propriété privée. Et là, on retrouve, y compris dans les discours, une revendication qui rejoint un axe central de la pensée anarchiste. Sur l'îlot Mazagran, plusieurs bâtiments existants ont en effet été appropriés dans le cadre des luttes. Le local d'un atelier associatif d'auto-réparation de vélos constitue un peu le centre névralgique de la contestation. C'est un local qui appartient à la métropole, qui est sous bail précaire, mais qui est en fait l'émanation d'une ancienne friche à Lyon qui s'appelait la friche RVI. Et donc c'est un collectif, pour le coup, qui s'est installé suite à l'incendie de cette friche sur cet îlot. Et donc voilà, ce local-là, c'est le lieu de réunion pour les collectifs, c'est le lieu d'événements en lien avec la mobilisation, et c'est vraiment un support physique pour la mobilisation depuis son émergence. Et puis, un an après le début de la contestation, un bâtiment vacant de l'îlot est réquisitionné pour créer un squat et un centre social autogéré, donc qui s'appelle l'espace communal de la Guillotière, que vous voyez, donc le premier lieu d'autoréparation de vélo, c'est l'atelier du Chat-Perché, et ici, donc, on a le CG. Le CG, c'est un bâtiment qui héberge des exilés, qui propose un ensemble d'activités culturelles et sportives, d'aide matérielle, cybercafé, laverie, distribution alimentaire, des services sociaux, soutien scolaire, cours de français, aide juridique. Son ouverture a permis l'ancrage territorial de la mobilisation au sein du quartier et rappelle que la pratique libertaire s'inscrit dans les lieux à travers des réalisations concrètes. Et donc, pour le collectif qui gère ce squat, cette inscription dans l'espace, elle est considérée comme hautement stratégique, car la réquisition d'un bâtiment vacant sur l'îlot permet finalement la formation d'une base pour agréger les luttes sociales dans le quartier et offrir une possibilité d'organisation sociale et politique autonome. OK, ça ira. Et voilà, et c'est aussi une base pour les autres squats en fait, de la ville. Ça permet aussi, quand un squat se fait expulser, de récupérer des affaires, des gens. Enfin, voilà. Le bâtiment donc, qui est situé juste à côté de celui-là, il a été réquisitionné un an plus tard également pour développer en fait, le squat et pour continuer à accueillir des personnes en situation difficile à être hébergées et des activités sociales et solidaires. Donc les mobilisations sociales, il faut que j'accélère. Les mobilisations sociales et patrimoniales sont donc indissociables d'une appropriation territoriale et d'un ancrage local qui sont nécessaires au déploiement d'initiatives autonomes. Elles permettent notamment en se saisissant du patrimoine, de définir ce que les collectifs considèrent comme un bien commun, une notion qui renvoie là aussi aux pratiques anarchistes, et c'est beaucoup cité chez les collectifs à Bookchin et au municipalisme libertaire, qui rend une référence assez forte. Le patrimoine, il est souvent associé à un instrument, donc je disais, de domination au profit des groupes sociaux les plus puissants. Il peut aussi constituer un outil de reconnaissance et de résistance pour les opprimés. C'est un peu la dichotomie sur laquelle on avait travaillé avec Amélie et voilà, qu'on retrouve dans beaucoup de travaux. Mais finalement, moi, la question que je me posais, c'est est-ce que ça peut être aussi un vecteur d'émancipation et d'autonomie individuelle et collective au-delà de ce qui serait la seule dimension patrimoniale de la défense d'un droit à la ville. Donc pour Rémi Benos, par exemple, lui, il veut penser le patrimoine avant tout comme un lieu d'échange et de diversité, constamment réinventé et renégocié. Et c'est notamment dans ces lieux ordinaires, dans ces espaces du quotidien, qu'on peut voir s'affirmer une volonté d'émancipation. Et donc, évidemment, dans une perspective anarchiste, cette réappropriation, elle ne peut advenir que de manière autonome. La mobilisation du patrimoine de ces espaces ordinaires constitue ensuite une dimension stratégique et concrète de cette visée émancipatrice, parce qu'elle permet sa mise en acte à travers la réquisition et l'occupation. Là, je ne cite pas, j'ai des éléments de citation, mais on retrouve aussi beaucoup ça, que l'appropriation du patrimoine, le squat, permet de vivre l'autonomie collectivement, individuellement. Pour le définir, justement, Jean-Louis Tornateur, lui, il emploie le terme de patrimoine citoyen pour désigner justement ces actions patrimoniales qui s'affranchissent des institutions et qui traduisent une capacité politique des habitants selon une perspective critique et alternative. Mais finalement, moi, ce que je vois, c'est que plus par un affranchissement, c'est dans un antagonisme avec les institutions qu'une approche libertaire du patrimoine pourrait se définir, en référence, là encore, à la tradition un peu anti-étatiste, beaucoup anti-étatiste, même de l'anarchisme. À la Guillotière, donc, c'est surtout qu'on a des institutions locales que se dressent les collectifs, mais on a une métropole qui est très importante, qui est toute puissante. Lucille parlait ce matin contre la métropole culturelle attractive. À Lyon, c'est vraiment contre la métropole à Gérard Collomb, contre la métropole ultra-puissante, etc. Donc c'est vraiment contre le centralisme local. Et donc, on a, je cite une citation, hein, « Nous nous opposons à ce pouvoir centralisateur qui prétend connaître mieux que nous nos besoins et nos envies. » Et donc, enfin, si l'appropriation du patrimoine est initiée par des groupes militants, elle est pensée dans un but de mise à disposition et par une volonté d'ouverture à l'ensemble de la population. La réquisition, elle est donc conçue pour résister aux changements sociaux et urbains du quartier, puis pour permettre la mise en œuvre d'activités solidaires et non marchandes, afin de répondre aux besoins des plus précaires. Donc, c'est les images que vous voyez. L'entraide, elle est vue comme un moyen de résistance aux évolutions sociales et urbaines du quartier, aux inégalités qui en découlent, et aussi aux violences policières. C'est un peu l'image qui est là. Effectivement, je ne parle pas d'ambiance, mais la présence massive des policiers à la Guillotière casse un peu, en tout cas, l'ambiance. Et donc, je vais conclure là-dessus. À la différence, finalement, de la gentrification des centres anciens, qui s'accompagne d'une valorisation et d'une réhabilitation du patrimoine bâti, celle qui se déroule actuellement à la Guillotière se fait vraiment par la destruction des héritages et de la modernisation urbaine, donc un patrimoine qui est jugé sans valeur et ordinaire. Et donc, pour les collectifs engagés dans une lutte contre le changement social et urbain du quartier, le recours à la défense et à la valorisation du patrimoine doit permettre d'éviter une table rase qui renforce la gentrification par un mouvement de démolition-reconstruction. Donc la requalification symbolique engagée à la Guillotière dans le cadre de mobilisation qui s'appuie sur la thématique patrimoniale n'a pas directement encore servi d'intérêt particulier ou produit des situations d'exclusion. Il faudra voir à 5 ans, à 10 ans, ce que ça produit réellement. Et les mobilisations, ils sont au contraire marquées par l'ambition de répondre aux besoins des classes populaires et des personnes en situation de précarité. Et donc, si les dimensions sensibles et spatiales de l'identité et de la mémoire du quartier sont bien des ressources pour l'activité contestataire et militante, c'est pour faire triompher des revendications politiques et sociales. Le patrimoine constitue un instrument stratégique et un outil de légitimation qui est mis au service de l'émancipation individuelle et collective. Et cette saisie du patrimoine, elle invite à définir donc une approche libertaire du patrimoine pour compléter à la fois la critique de l'appropriation du patrimoine urbain par des élites et l'analyse des résistances à cette appropriation par les classes dominées, et donc de concentrer l'attention sur des patrimonisations qui seraient alternatives et libres. Et donc on pourrait essayer de définir cette approche libertaire, et je m'arrête là, du patrimoine comme une réappropriation autonome d'héritage, en opposition aux institutions et dans une perspective d'émancipation individuelle et collective. Cette réappropriation, elle se déroule dans le respect des mémoires populaires de l'espace, selon des logiques de mise à disposition de toutes et tous et de redistribution aux plus démunis dans le cadre d'une utilisation du patrimoine comme support pour des activités non capitalistes, solidaires et inclusives. Et je m'arrête là.
Merci beaucoup Thomas. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ? Ah, l'objet. T'as un objet.
Alors, j'ai amené j'ai décroché une affiche de mon bureau de l'espace communal de la Guillotière, mais au départ, je voulais amener un paquet de cigarettes de Marlboro, parce que, en fait, c'est une forte activité informelle sur la place du pont, la Guillotière, et ça qualifie beaucoup l'ambiance, puisqu'on a des vendeurs de cigarettes qui disent Marlboro, 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 quand on passe devant eux. Donc, et c'est un point dur, évidemment, des tensions et des politiques sécuritaires qu'il y a aujourd'hui, c'est ces vendeurs qui sont des mineurs non accompagnés, principalement. Non, qui ne sont pas des mineurs non accompagnés, mais qui sont des personnes sans papier, notamment d'Algérie, beaucoup, et certaines régions, donc qui sont dans des réseaux. Et voilà, ça qualifie vraiment l'ambiance du quartier. Et donc, j'ai une collègue qui avait fait des cartes sonores du quartier, des paysages sonores, et je n'ai pas pu récupérer ou moi-même aller acheter un paquet. Et puis, les paquets qu'on a, sinon, ils sont neutres. Alors que là, eux, ils vendent des paquets où il y a vraiment Marlboro. Donc, j'ai choisi une affiche.
Ouais. Très bien. Je te donne la parole.
Comme Marche a dit... je me demandais du coup quel était le rapport avec le lieu autogéré nouvellement réquisitionné, enfin quel était le tempo de la réquisition et si quels étaient les rapports avec la nouvelle métropole Europe Écologie Les Verts, enfin dominée par Europe Écologie Les Verts, pour voir d'éventuelles distinctions entre écologisme métropolitain et socialisme métropolitain. Parce qu'à Nantes, un projet similaire a été expulsé l'année dernière.
Tu parles du second squat ?
Oui.
Ouais. Alors en fait, le second squat, c'est le premier, mais c'est le premier qui s'étend dans le bâtiment d'à côté, donc c'est le même collectif, etc. Mais par contre, effectivement, une fois que la nouvelle majorité métropolitaine et municipale est passée, le dialogue est un peu plus poussé. Gérard Collomb, c'était pas de squat, vraiment. C'est vraiment une politique suite à cette friche RVI dont j'ai parlé, qui était un nouveau territoire de l'art, qui avait été soutenu par la mairie, le Grand Lyon, donc presque qui communiquait dessus, puis qui a fini par brûler. Et à partir de cette date, Gérard Collomb a dit plus jamais de squat à Lyon, en tout cas de squats qui sont visibles et qui sont un peu ouverts sur les quartiers, parce qu'il y en a bien toujours eu, etc. Et donc là, le passage à une nouvelle municipalité a engagé quand même un dialogue. Hein, la mairie est venue faire des travaux pour l'électricité. Donc y a, voilà. Alors après, les collectifs, faut pas trop le dire. C'est faux. Mais bon, voilà, il y a des liens quand même pour pérenniser un squat. C'est compliqué d'être complètement en dehors des institutions, même si... Voilà. Non, voilà, beaucoup moins. Alors, il y a quand même évidemment des procès, avec notamment s'il y a un propriétaire, il y a un squat, c'est un propriétaire privé, et l'autre, c'est Grand Lyon Habitat, donc c'est la métropole. On va dire que voilà, c'est le bailleur social de la métropole. Donc, il y a plus de négociations. Après, il y a des jeux qui se jouent. C'est une membre d'un collectif est devenue conseillère municipale à l'arrondissement, donc ça a joué beaucoup dans le. Voilà. Donc, ouais, il y a aussi les circulations des personnes, je trouve, qui jouent beaucoup dans les politiques publiques. Mais voilà, donc aujourd'hui, on va dire que c'est quelque chose qui est plus ou moins maintenu en l'état, mais le nouveau projet sur l'îlot va peut-être quand même amener à peut-être expulser. Mais voilà, ils ont le temps aussi de se pérenniser et créer une légitimité, notamment au sein du quartier. Donc, c'est encore ouvert, mais voilà, il n'y a pas de. La politique est moins répressive.
Oui. Merci beaucoup pour ta présentation qui fait... Ah pardon, Céline Bonico Donato. Merci donc pour ta présentation qui fait écho à une thèse en architecture dans le jury de laquelle je siégeais, d'Antoine Bégel, qui est très investi dans différents collectifs à Mazagran et qui s'appuyait sur ton terrain et sur son expérience, son implication pour revisiter la notion d'habiter et qu'est-ce que c'est que faire acte d'architecture. Et la question que je voulais te poser, c'était sur le patrimoine. En fait, il me semble peut-être un des premiers gestes ou un des premiers actes dans ces mobilisations, c'est de faire valoir comme patrimoine ce qui n'est pas considéré comme tel par les politiques publiques. Et donc, ça m'intéressait par rapport à la posture anarchiste, en fait, qui est impliquée dans ces différentes luttes, en fait, de faire valoir une contre-mémoire ou par rapport à une mémoire officielle, à une valorisation d'une certaine histoire institutionnelle, d'une architecture monumentale, renvoyant aussi à une manière d'écrire l'histoire, et que donc de faire valoir comme patrimoine ce qui n'est pas considéré comme tel, c'est faire valoir une autre histoire, une autre mémoire, une histoire qui n'est pas écrite que par les puissants, pour le dire vite, ou par une reconnaissance institutionnelle.
Alors, oui, bah, Antoine, que je connais bien, a fait partie justement de ce petit groupe de trois architectes qui, le chômage aidant, a fait tout un travail justement de recension de ce patrimoine donc ordinaire pour eux et de, voilà, de ce contre-patrimoine, on pourrait dire un peu. Voilà, parce que c'est effectivement l'argument pour la gentrification, on va dire, en tout cas la partie immobilière de la gentrification, c'est-à-dire la destruction, la densification d'appartements très très chers dans le quartier, c'est de dire que finalement c'est un tissu de briques et de broc, voilà, qu'il n'y a pas de, il y a même pas de site industriel en fait qui serait, alors il y a un monument historique un peu industriel à côté, mais sinon dans le tissu urbain, voilà, il est un peu commun, voilà, donc c'est effectivement tout ce travail-là de recension des destructions et de défense de des petits ateliers, des choses bases, et enfin voilà, et du tissu un peu bordélique presque, enfin voilà, qui est pas identifiable. C'est effectivement, ils ont réussi un peu à le construire en patrimoine sans passer justement par dans l'autre quartier, c'est différent. Dans l'autre quartier, c'était plus une stigmatisation très forte sociale, et là effectivement les collectifs de l'époque, en retrouvant Bakounine, en retrouvant Jean Moulin, en retrouvant Louise Michel dans le quartier, en retrouvant, voilà, ou des choses plus anciennes, ou le quartier du Plâtre avec tous les immigrés italiens qui travaillent le stuc, etc. Ils ont plus passé par les codes des puissants pour que les puissants, enfin des dominants, disent ok, alors que là il y a une vraie contre-construction patrimoniale de dire c'est un patrimoine ordinaire, en fait ça vaut autant que vos monuments de la presqu'île, quoi.
Merci.
D'autres personnes veulent intervenir?
Mathilde Giraud, post-doctorante AAU Cresson. Je m'améliore depuis ce matin. J'avais une question sur la notion de patrimoine. Est-ce que vous avez envisagé de l'étendre en dehors de la question du bâti? Je pense particulièrement à la question alimentaire, où on a vu, là, ces dernières années, à la Guillotière, se mettre en place des femmes, parce que ce sont essentiellement des femmes d'origine africaine, sur les trottoirs, du coup, qui sont là avec des très grosses glacières et qui vendent de la nourriture. Et donc, il y a toute une tradition aussi de culinaire qui est derrière. Donc, du coup, je me posais cette question, sachant que, vous l'avez dit, à la Guillotière, on a tous les restaurants indiens, je ne sais plus, enfin, voilà, ouais. tout ce qu'on va appeler... nourriture du monde, quoi. Ouais.
Alors oui, ça fait partie. En fait, la Guillotière, bon, dire, il y a vraiment, il y a un quartier asiatique, il y a un quartier maghrébin et il y a un quartier plutôt d'Afrique subsaharienne. Et même il y a un quartier plutôt turc, mais qui est un peu à l'extérieur, on va dire, du périmètre de la Guillotière. Et en fait, effectivement, il y a toute cette question des commerces, je mets des guillemets ethniques, qui est très forte et qui constitue un patrimoine. Alors dans les collectifs, il y avait justement, on avait fait une journée, on avait organisé des balades dans le quartier, et il y avait une balade justement sur la gastronomie et sur les choses comme ça. Donc et effectivement, pour parler, voilà, des femmes qui sont apparues, ça c'est un effet très Covid. Pour le coup, il y a un marché un peu sauvage qui est le point de tension. Il y a les vendeurs là de Marlboro, et effectivement, on a vu ces femmes apparaître sur le marché, qui pour le coup permet aussi de, dans les oppositions, le marché stigmatisé, marchandises volées, etc. Et en fait, effectivement, on peut montrer qu'il y a peut-être des marchandises volées, et puis voilà, c'est surtout un marché de survie, et donc y compris des femmes qui viennent vendre, effectivement, il y a du bissap, il y a des choses comme ça. Mais voilà, mais oui, alors je ne l'ai pas exploré en tant que tel, mais effectivement, ça fait partie complètement, effectivement, des usages finalement populaires qui sont défendus à travers... la dimension aussi bâtie ou autre du patrimoine.
Merci beaucoup. Est-ce que d'autres personnes veulent... On prend une dernière question, je pense, et puis Rossila, tu pourras prendre la piste.
Merci. C'est Lucetane Crénon, doctorante. J'ai deux questions. La première sur la notion de patrimoine aussi. Est-ce que cette notion de le patrimoine est aussi utilisé dans les affiches, dans les communications, dans nos quartiers? Et je vais relier cette question à ta posture de militant, tu t'avais dit, et puis maintenant ta posture est changée, plus aller vers ta posture de chercheur, mais tu continues, j'imagine, ta recherche. Du coup, comment ça joue sur ton regard sur la recherche là?
Alors, sur la notion de patrimoine, elle est, suivant les collectifs, elle est, oui, les architectes dont parlait Céline, enfin voilà, évidemment, ont beaucoup utilisé le terme patrimoine, il apparaît énormément. Patrimoine ordinaire, ça permet de construire un peu une notion contre la destruction. Donc oui, et après, pour les collectifs plus anarchistes, ils utilisent moins le terme de patrimoine, mais beaucoup plus une mémoire ou d'histoire, d'identité du quartier populaire, etc. Donc on retrouve quand même un peu... Le terme patrimoine, effectivement, il est plus chez les architectes que chez les anarchistes qui ont plus d'ailleurs des profils de travailleurs sociaux, qui ne sont pas exactement les mêmes. Et encore, je dis ça, c'est à gros traits. Et donc sur la posture, c'est compliqué, mais c'est bien, c'est intéressant parce que ça, je pense que j'assume une posture non neutre dans la recherche. Et après, ça permet de travailler dessus. Par contre, qu'est-ce que c'est être objectif quand on est chercheur? On a tous des affects aussi personnels. Et que ce soit sur un terrain dans lequel on est objectivement militant ou pas, on a tous un point de vue sur le monde. Donc voilà, et donc là, ça permet peut-être de le confronter un peu plus et de travailler là-dessus. Et pour le coup, moi, je me suis pas dit je vais travailler là-dessus en tant que chercheur. Mais au bout de 2-3 ans d'activité militante, je me suis dit qu'il y a quand même des choses super intéressantes à dire et je raccroche ça avec des choses que j'explore à côté dans une dimension recherche. Mais par contre, aujourd'hui, je sens que je suis obligé de plus trop militer, sur ce quartier-là, pour arriver à prendre du recul et à faire de la recherche. Ça, pour le coup, oui, parce que sinon, en fait, c'est difficile. Et puis après, il faut faire attention s'il n'y a pas influé sur son terrain, en étant les deux à la fois. Donc j'ai essayé de séparer un peu les rôles comme ça. C'est pas, je le dis comme si c'était simple, ça l'est pas. Mais en tout cas, je pense qu'il faut. Le truc, c'est de beaucoup réfléchir dessus pour permettre de désamorcer en fait les effets négatifs que ça pourrait avoir. Mais aujourd'hui, le résultat, j'ai un peu séparé les choses.
Une micro-question, Pascal, si tu veux.
C'est pas une question, c'est plutôt un commentaire sur ce que tu viens de dire que je trouve extrêmement important et que moi je mettrais en rapport avec l'ambivalence de tous nos travaux et le malaise dans lequel on est, enfin le malaise, l'ambiguïté, l'ambivalence, la posture paradoxale qu'on a trouvée entre des travaux de recherche qui sont une posture qui a une perspective d'objectivation, d'observation, d'analyse, etc., et la posture de projet pour les architectes ou pour les urbanistes. Et alors, je trouve que c'est homologue, c'est la même question, et que dans tous nos travaux, ça se pose, et que très très souvent, par rapport à tous les exposés qu'on fait ici, on trouve ça très intéressant sur le plan analytique, etc. Mais lorsqu'on veut passer à du projet, on dit une fois qu'on a dit que tout s'indifférencie, qu'il y a une financiarisation du monde, etc., comment est-ce qu'on fait si on est en charge de transformer le territoire, quoi ? Et c'est une posture qui est radicalement différente, qui n'est pas sur la même base. Et ça n'est pas une continuité. Mais par contre, on vit dans un monde où c'est très, très, très peu légitime d'assumer une posture paradoxale qui tienne les deux, quoi. Et ce que tu dis, c'est ça, je trouve. Je sens qu'il faut que je me retire un peu du militantisme.
Pour arriver plus longtemps. Mais c'est vrai qu'on est...
Peut-être par rapport aussi au regard sur le chercheur, quoi. C'est que... Si tu te retires pas un peu, on va dire attends, c'est quoi, c'est du militantisme ou c'est de la recherche? Il faut savoir, quoi. Non, et je trouve que dans notre UMR, c'est une vraie discussion à porter. Et du coup, merci de cette.
Mais je pense faut pas opposer les deux, faut penser les deux en même temps. Et c'est vrai que sur certains sujets, si on se déclare cherchant les gens, on va être sommé de s'expliquer d'être neutre et objectif et scientifique. Mais en fait, ceux qui ne le font pas, on ne leur demande pas. Donc je trouve que c'est au contraire, c'est en le disant qu'on est amené à travailler dessus.
Merci beaucoup. C'était Pascal Enfou, chercheur au Cresson, parce qu'il ne s'est pas présenté.
C'était juste une remarque avant que Rossila prenne la parole. Le patrimoine, ça veut dire l'héritage du père. Donc ça ne m'étonne pas que les mouvements anarchistes et libertaires soient réticents à reprendre ce mot qui m'a marqué, dira-t-on.
Père patrie.